Et notre ancêtre commun avec Néandertal est-il plus vieux que prévu? Eh bien, c'est ce que propose une paléontologue espagnole et c'est aujourd'hui à la une de la science, Axel Villard.
Oui Mathieu, en comparant les très nombreuses dents néandertaliennes découvertes dans la grotte de Cima de los Huesos au nord de l'Espagne avec des dents humaines, la chercheuse Aida Gómez Robles propose de faire reculer cette date de séparation entre les deux groupes de presque 400 000 ans. Notre ancêtre commun avec Néandertal aurait donc foulé la Terre il y a 800 000 ans, une nouvelle date qui fait débat depuis la parution de l'étude la semaine dernière et dont nous discutons avec vous. Sandrine Prat, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléoanthropologue au Musée de l'Homme dans l'unité Histoire naturelle de l'Homme préhistorique et vous êtes spécialisée dans l'étude des dents fossilisées. Tout d'abord, que pensez-vous de cette méthode de datation exclusivement dentaire de l'ancêtre commun proposée par cette chercheuse? Vous faites partie des convaincus par l'étude?
Oui, plutôt, parce que c'est une étude très intéressante d'Aida Gómez, car elle utilise pour la première fois la forme des dents pour estimer une date de divergence entre deux espèces. Donc ici, c'est les Néandertaliens et les hommes modernes. Et c'est vrai que souvent, on utilise plutôt les données génétiques pour faire ce type d'estimation. Donc c'est intéressant d'utiliser un nouveau cadre, donc les dents dans ce cas-ci.
Alors pourquoi est-ce que l'étude est très critiquée depuis la semaine dernière et sa parution? Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent contre.
Alors les critiques, elles vont par au fait que l'auteur considère que le rythme d'évolution est identique chez toutes les espèces de la lignée humaine pour les dents. Donc Aida se base sur ses propres travaux qui ont montré cela, en effet, qu'il y avait un taux constant au cours de l'évolution pour au niveau des dents en tous les cas.
Et Sandrine Prat, justement, une dent d'Homo sapiens, si on regarde sur un temps très très long, est-ce que c'est exactement la même ou est-ce qu'on va trouver justement beaucoup de différences?
Alors les dents d'Homo sapiens, en fin de compte, rentrent quand même dans la variabilité des hommes actuels. Donc il y a une variabilité qui peut être assez forte, mais il n'y a pas de grande distinction, on va dire, entre les premiers Homo sapiens et nous. En revanche, il y a des distinctions entre les dents de Néandertaliens et nos dents.
Ça, c'est... Alors quelles sont les différences principales entre une dent typiquement néandertalienne et une dent typiquement sapiens?
Alors les dents néandertaliennes, par exemple, ont ce qu'on appelle les incisives en pelle, ce qui fait que vous avez une concavité à l'intérieur. Donc les incisives, c'est les dents antérieures. Il y a d'autres caractères également sur les molaires chez les néandertaliens qu'on n'a pas chez les hommes modernes.
Est-ce qu'on a le même nombre de racines, par exemple?
Pour les racines, il y a une petite variabilité, mais globalement, il n'y a pas forcément de grandes différences. Ça va être plutôt pour d'autres taxons, on a des différences entre nombre de racines de prémolaires notamment, et ce qui était notamment mis en avant sur l'Usoniensis il y a quelques semaines.
Alors là, cette chercheuse propose de faire reculer de 200 à 400 000 ans la date de séparation entre les deux groupes. Pourquoi est-ce que c'est important et qu'est-ce que ça changerait dans l'histoire de la lignée humaine? Alors c'est 400 000 ans au maximum, on va dire.
Donc là, ça fait une date de divergence, donc avant 800 000 ans, ce qui implique que les Homo heidelbergensis, qui étaient considérés comme les candidats probables des ancêtres communs des Néandertaliens et des hommes modernes, ne soient plus ce candidat potentiel, puisqu'ils sont légèrement postérieurs à 800 000 ans.
Est-ce que ça voudrait dire aussi qu'on a des squelettes qui sont antérieurs à cette date et qui sont sapiens entre 600 et 500 000 ans et qu'on faudrait reclasser maintenant?
Non, je ne pense pas. Hein. Sincèrement, malheureusement, on a très peu de matériel avant 800 000 ans. Oui. On a une petite lacune paléontologique, on va dire, entre 800 000 ans et au-dessus d'un million d'années. Donc c'est assez difficile, mais il y a quand même des caractères qui sont vraiment différents des Homo sapiens dans le peu de restes que l'on a dans notre registre fossile.
Alors Sandrine Prat, beaucoup d'espèces ou de groupes ont été découverts grâce à des dents. Certains ne sont d'ailleurs aujourd'hui connus que par leurs dents. Une dent, c'est mieux qu'un os quand on la trouve?
Alors c'est pas forcément mieux, mais en fin de compte c'est l'élément qui se conserve le plus. Donc c'est l'élément qu'on va retrouver le plus sur le terrain, notamment en Afrique par exemple. Et c'est des indicateurs de pas mal de dimensions. Donc on va pouvoir déterminer souvent l'espèce à qui elle appartient. Également, ça a des indications sur le régime alimentaire, c'est-à-dire qu'on peut pratiquer ce qu'on appelle des analyses isotopiques et on va pouvoir déterminer quel type de plantes ou d'animaux ayant mangé ces plantes les hominines avaient ingéré, notamment si c'est des graminées, des feuilles, des fleurs, des feuilles. Également, on va pouvoir étudier ce qu'on appelle les micro-usures dentaires, donc c'est les petites stries que vous avez à la surface des dents. Et donc ça va pouvoir nous dire si l'individu a ingéré plutôt des aliments durs, tendres ou abrasifs. Et donc ça, peu de temps avant sa mort.
Alors, dans votre labo, vous voyez passer des dents bien plus vieilles que celles dont on parle avec ce débat là entre Néandertal et Sapiens. Grossièrement, comment est-ce qu'elles ont évolué, nos dents, depuis plusieurs millions d'années, entre les premiers représentants de la lignée humaine et nous aujourd'hui?
Donc, globalement, on a quand même une réduction de taille, notamment des molaires. Après, si on regarde une période plus spécifique, autour de 2 millions d'années, vous avez plusieurs espèces qui ont coexisté, notamment en Afrique, les paranthropes et les premiers hommes, et là on voit vraiment de grandes distinctions morphologiques entre ces groupes.
Et le critère c'est quoi? C'est le régime alimentaire toujours qui conditionne?
Pas forcément, parce que là, dans le cas donc les paranthropes et les premiers hommes, donc on se rend compte qu'en effet, leur morphologie est différente, mais il est fort probable qu'ils aient quand même eu un régime alimentaire assez proche. Donc en fait, la forme de la dent va plutôt vous indiquer ce qu'ils sont capables de manger, plutôt que ce qu'ils mangent réellement. Donc ce qui est intéressant, c'est de coupler différents types d'analyses pour voir ce qu'ils ont été capables, donc peut-être des sources de nourriture de repli, quand la nourriture préférentielle n'était pas là, et voir ce qu'ils ont réellement mangé au cours de leur vie.
On a toujours eu 32 dents.
Oui, on a toujours eu 32 dents comme tout primate, parce que nous sommes des primates, comme ça a été rappelé.
Ok. Est-ce que justement, en regardant chez ses ancêtres plus vieux et en appliquant par exemple la méthode qui est proposée par cette chercheuse, on pourrait pas valider ou non la proposition? Est-ce qu'on retrouve les mêmes points de croisement dans la lignée si on fait redescendre le modèle plus bas dans le temps?
Ben là, c'est vrai que ça serait intéressant de mettre un peu plus d'espèces dans le modèle et d'aller sur des espèces un peu plus anciennes, et ça permettrait en effet de pouvoir voir la datation de divergence par rapport aux premières espèces de la lignée humaine. Donc le premier plus ancien spécimen, c'est 2,8 millions, et également des divergences entre les paranthropes et notre lignée et d'autres divergences. C'est vrai que ça donne plein de perspectives, ce type d'analyse, et donc peut-être modéliser sur d'autres fossiles et d'autres périodes où les données génétiques ne sont pas disponibles du tout, là, pour le coup.
Oui. Pour vous, et pour généraliser, comment on explique aujourd'hui, du coup, la différence entre les deux modèles? Quand on applique la génétique, on trouve moins 400 000, et là, on trouve moins 800 000. Il faut un autre modèle pour pouvoir trancher, ou comment on va faire?
Je pense que la base, c'est que sans doute les changements génétiques et morphologiques, il y a peut-être des rythmes différents. Je ne suis pas sûre qu'on va pouvoir trancher. Je pense que c'est deux modèles complémentaires. Donc après, il faut qu'il y ait des discussions entre les différentes disciplines pour pouvoir voir comment on peut mettre tout ça dans le même schéma. Mais il n'y a pas forcément une antinomie entre les deux types d'analyses.
En tout cas, c'est la science en pleine discussion là, l'an prochain. Hein. Encore un exemple de plus.
Oui, c'est fascinant. Je trouve ça incroyablement intéressant. Toutes les questions de datation, de toute façon, en paléoanthropologie, sont déterminantes. Vous avez vu comment Jean-Jacques Hublin, récemment, a fait reculer l'âge de Sapiens de 100 000 ans.
Oui.
Si la séparation avec Néandertal est plus ancienne, ça laisse encore de la marge pour Sapiens pour vieillir.
C'est ça. Est-ce que vous avez étudié les dents de singes d'ailleurs pour les comparer?
Non, malheureusement, je suis plutôt du côté de la biologie moléculaire et de la génétique.
Allez, merci beaucoup en tout cas Sandrine Prat. Vous êtes paléoanthropologue au Musée de l'Homme dans cette unité Histoire naturelle de l'Homme préhistorique. Merci pour cet éclairage et puis Axel, on se retrouve demain.
À demain Mathieu.